Je vais donc vous présenter maintenant notre conférencier, Charles Choderlos. Donc Charles Choderlos est né à Madrid en 1952. Il est artiste peintre. Concernant son parcours, il a été élève de Philippe Faure à Bordeaux et il a fait des études de droit et de sciences politiques. À partir de 1990, Charles Choderlos décide de se consacrer totalement à son art, privilégiant une œuvre en noir et blanc qui évolue de la plume au pinceau chinois en passant par la gravure. Depuis 1997, Charles Choderlos s'est installé en Chine, dont il parcourt les contrées, résidant à Pékin. Les Hutong, vieux quartier de la capitale, ne cessent de séduire l'artiste, mais d'autres villes ou villages du Hebei, du Jingxiong, par exemple, inspirent l'artiste. Ses spécialités, le pinceau chinois, l'encre noire et le papier d'arche, associant les principes de la perspective occidentale et l'usage des espaces vides de la peinture chinoise. Ses publications, donc Charles Choderlos a écrit en Chine, Mémoire d'encre 1999, Mémoire d'un printemps 2002. Ses expositions, de 1987 à 1996, Charles Choderlos a participé à plus de 50 salons et concours nationaux et internationaux, et 10 expositions personnelles lui sont consacrées. Depuis 1997, 8 expositions à Pékin et 2 expositions à Shanghai. Ses prix, de nombreux prix lui ont été décernés lors de salons et concours nationaux ou internationaux. Son travail est honoré par une acquisition officielle du Musée d'art et d'histoire de Poissy, ainsi que de 3 autres municipalités. En 1996, il reçoit la médaille d'argent, arts, sciences et lettres. Donc Charles Choderlos, je vous cède la parole pour 40 minutes, après quoi vous aurez des questions avec le public. Merci beaucoup.
Bien, je tiendrai à remercier d'abord l'Université de tous les savoirs de m'avoir sollicité, de m'avoir invité, au milieu certainement de conférenciers plus connaisseurs de la Chine que moi. Je vous remercie aussi d'être venu. Il fait froid. Moins froid qu'à Pékin. Donc, comme on vient de vous le dire, je suis un artiste voyageur, un artiste dessinateur. Je demeure à Pékin depuis 7 ans, 6 ans exactement. Je suis arrivé en Chine la première fois il y a 7 ans. Et je suis tombé amoureux de Pékin comme on tombe un petit peu amoureux d'une femme. D'ailleurs, en chinois, il y a deux façons de dire aimer. On peut dire wo xi huan Beijing, j'aime Pékin, mais moi je dis wo ai Beijing, j'aime Pékin, en utilisant le mot amour, le mot qu'on utilise pour une femme. Et c'est vrai que, tel un peintre amant de son modèle, je ne cesse de peindre Pékin avec amour, en décrivant tous les beaux aspects de cette ville et du style de vie de ses habitants. La presse chinoise, d'ailleurs, la presse officielle, le Zhenminzhibao, le quotidien du peuple, le Zhongguanhuabao, le journal de la culture de Chine, des journaux, de nombreux journaux, ont flatté mon travail, ont mis en relief tous ces aspects qui leur paraissaient très positifs et très intéressants, perçus par l'œil d'un occidental. Cela a duré jusqu'à l'année dernière. Depuis l'année dernière, il se passe un petit changement dans la perception qui est faite par les journalistes chinois, qui représentent quand même les voix officielles. Mon regard, lui, n'a pas changé. Mon travail n'a pas changé. Ce qui change, c'est que ma maîtresse est en train de disparaître. Pékin est en train de disparaître sous le coup des bulldozers, des démolisseurs. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Je ne suis pas allé en Chine pour dessiner une destruction. Je suis arrivé là-bas, c'était debout. Je suis toujours là, ça disparaît. Je deviens, par le fait des événements qui me dépassent, le témoin d'une situation qui est une disparition. Alors, je ne voudrais pas être pris dans une querelle partisane ou dans des oppositions de pour et de contre. Je me dois aussi un devoir de réserve en tant que résident français en Chine, en tant que résident étranger en Chine, je me dois d'un devoir de réserve sur cet événement-là. Par contre, en tant qu'artiste, je le montre. Je le montre tel qu'il est, avec le plus d'esthétique possible, car finalement, même si on voit sa maîtresse disparaître, on l'aime quand même, donc même ces dessins de démolition que je fais parfois, ils sont faits non pas de façon caricaturale, je garde encore de la beauté dans ce que je fais. Bon, on va passer tout de suite maintenant à la vision de ces photos qui sont les reproductions de mes dessins faits à l'encre de Chine et au pinceau chinois. Je vais vous faire visiter d'abord le quartier où j'ai habité, puisque j'en ai été chassé. Le quartier disparaît, il est démoli. Et on va commencer par une photo d'un de mes dessins qui se trouve dans un fouton dans le quartier de la Cloche. Le quartier de la Cloche se trouve dans la cité tartare, ce qu'on appelait la cité tartare, au nord de la cité interdite. C'était la cité qui était réservée aux Mandchous. Et c'est le Rutong. Ce Rutong porte le nom de Rutong de Lu Guoxiang. Vous avez là une porte traditionnelle d'une vieille maison seigneuriale, d'un mandarin de haut rang, qui habitait dans une magnifique Sereyuan. Les Sereyuan, c'est les maisons à cour carrée, typiquement pékinoises. On ne trouve pas ça ailleurs, forcément, dans toute la Chine, c'est typiquement pékinois. Et je vais m'attarder un peu plus sur ce dessin par rapport aux autres, parce que vous avez ici toute la symbolique des portes des Sereyuan de Pékin qui se retrouve sur ce dessin, et ce sont toutes ces portes qui disparaissent, donc je tiens à vous les montrer. Vous avez, on va commencer par le bas, vous avez un nombre de marches qui est toujours de nombre impair, sauf quand malheureusement le sol de la rue enfonce en quelque sorte le niveau et remonte. Dans cette rue, la plupart des portes, les accès des portes, avaient 5 marches. C'est toujours un nombre impair. Il faut, pour respecter la géomancie des architectes chinois. En accédant à la porte, vous avez deux pierres de seuil, qu'on appelle des mandor, qui ont une fonction à la fois décorative, avec des motifs sculptés symboliques, qui peuvent être un petit peu à l'image de nos armoiries parlantes du Moyen-Âge, mais qui sont parfois des symboles aussi bien religieux que des jeux de mots sculptés qui veulent dire des vœux, des souhaits. Et en même temps, ces pierres qui apparaissent là en avant de la porte continuent derrière la porte, parce que sur cette pierre s'incruste d'une part cette poutre horizontale qui est très importante, parce qu'elle oblige le passant à lever la jambe pour entrer à l'intérieur de chez lui ou de chez son hôte, et en levant la jambe, sans toucher la poutre, on laisse les mauvais esprits qui étaient collés aux semelles dans la rue, pour ne pas qu'ils rentrent à l'intérieur de la demeure. Et cette pierre aussi a une petite encoche à l'intérieur qu'on ne voit pas, et qui soutient en fait le gond de la porte de chaque côté. Ces pierres sont très ouvragées toujours pour certaines. Beaucoup étaient surmontées d'un animal sculpté, et la plupart de tous ces animaux ont été brisés pendant la révolution culturelle. Cette porte est très belle aussi. Elle a de chaque côté, vous voyez, des écritures parallèles qui ont été apposées sur un papier collé. Et tous les ans, le propriétaire, au moment du nouvel an chinois, colle une nouvelle série de dictons. Et au-dessus de la porte, vous avez là 1, 2, 3, 4 morceaux de bois qui ressortent, qui sont fichés. On appelle ça des aiguilles. Parfois, vous n'en avez pas du tout. Parfois, vous en avez 2. Parfois, vous en avez 4. En fait, ces éléments-là ne sont pas des éléments décoratifs purs, ce sont des symboles du rang mandarinal du mandarin qui était là. Plus le mandarin était important, plus il avait d'éléments d'aiguille à incruster. Mais il n'y en avait toujours que deux possibilités, soit deux aiguilles, soit quatre aiguilles. Donc on voyait une porte avec quatre aiguilles, c'est la porte d'un haut mandarin. Vous avez les hortoirs qui sont en fer forgé. Et ici, cette protection en fer clouté. Alors là, on ne le voit pas bien, sur, peut-être, je ne sais pas. Mais les clous étaient enfoncés, les clous qui fixent la protection en fer forgé, ici, étaient cloués en reproduisant la croix gammée bouddhique. Donc là, vous avez finalement ce que j'appellerais, moi, être le symbole de Pékin, les portes des sœurs Heuyen. C'est une porte beaucoup plus simple, dans une petite ruelle, juste à côté. Et là, l'unique chose que je peux faire remarquer, c'est que les ruelles de Pékin, les Hutong, sont bordées d'arbres. C'est une ville qui est très verte. Les arbres, ce sont très souvent d'ailleurs dans les rues, ce sont des sophoras, car là aussi il y a une symbolique. Dans les rues, les arbres sont destinés à donner de l'ombre, alors que les arbres qui sont à l'intérieur des jardins, des cours carrés, sont des arbres fruitiers qui donnent des fruits rouges très souvent. Ce sont des jujubiers avec des jujubes qui deviennent toutes rouges à l'automne. Ce sont des grenadiers avec des belles grenades rouges. Ce sont des plaquemignées qui donnent un fruit que vous connaissez sous le nom de kaki. Mais là aussi, c'est encore une symbolique à l'intérieur. Le fruit, symbole de prospérité, d'abondance, de fertilité. À l'extérieur, les arbres sont pour donner de l'ombre. Voilà encore une de ces belles portes de Sœur Heuyen avec des détails de la vie passée et de la vie d'aujourd'hui. Vie passée, les pierres de seuil, un petit mandarin qui avait ses deux aiguilles. Au fond, vous avez ce qui se retrouve pas toujours, mais là qui était parfait dans cette maison qui était entière à l'époque. Je l'ai faite en 2000, il y a 2 ans. Il y avait un mur écran pour chasser les mauvais esprits. Donc, l'accès à la maison se fait par une première cour avec un mur écran qui occulte aussi du passant tout ce qui se passe à l'intérieur. Et on tourne ensuite sur la gauche où il y a une autre porte et qui donne accès à une autre cour. Là, il y avait eu un mariage récemment. Et on avait collé ce petit papier rouge avec le symbole du bonheur. Le caractère du bonheur qui était doré. Symbole d'aujourd'hui, je vous ai parlé des symboles du passé, ben maintenant c'est les vélos et tout le petit bazar qui ne peut pas rentrer dans les maisons et que l'on met partout à l'extérieur. Les rues de Pékin, les petites rues de Pékin sont charmantes. Il n'y a pas beaucoup de véhicules dans les Hutong, c'est toujours très calme. Là, c'est tout près de cette porte précédente. Là, ce que l'on voit ici, ce que j'ai dessiné, c'est justement un jujubier qui est à l'intérieur de la cour. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que ici, quand je l'ai dessiné, je ne savais pas très bien ce que c'était. Je pensais que c'était un lavabo, une auge quelconque dans laquelle on avait mis des pots de fleurs. En fait, pas du tout. C'était bien une auge en pierre, c'était en marbre. Taillé, c'était du temps où il y avait des chevaux à Pékin, et maintenant il n'y a plus de chevaux. Et c'est une des rares auges qui reste, car on n'en trouve plus beaucoup. Je parlais des chevaux, c'est encore un autre détail, dans une petite ruelle tout à fait proche d'où nous étions, à Banshan Hutong, c'est le Hutong de la menuiserie, vous avez justement... la pierre de seuil, celle-ci elle est carrée, celle de tout à l'heure était ronde. Là, l'animal qui était dessus, le petit griffon, a été cassé pendant la révolution culturelle. Là, vous voyez l'encoche où était fixée la barre transversale qui n'existe plus. Et ici à droite, vous avez une pierre avec un petit trou sculpté à l'intérieur ici. C'est un champ matron, c'était une pierre qui servait à fixer, c'était le poteau où on attachait les rênes du cheval, le licol du cheval à l'entrée de la maison. Symbole d'aujourd'hui, la poubelle en osier, la boîte aux lettres. Encore une petite entrée de maison, toute modeste, mais qui appartenait à un petit mandarin, avec ses pierres de seuil, sa barre transversale, ses toits qui malheureusement ne sont pas bien entretenus. Et par contre, un détail qui est important, qui marque un petit peu l'évolution de la ville de Pékin, notamment lorsque, pendant la révolution culturelle, les habitants de Pékin ont été obligés, les Pékinois, ou ont été chassés de leur maison qu'ils possédaient, leur maison de famille, soit ont été obligés de partager leur domicile avec 5, 6, 15 familles. Il s'est créé une surpopulation forcée, une volonté politique, et les gens n'avaient plus de place pour vivre dans ces maisons-là. Donc ils ont bâti à l'intérieur des cours, les jardins ont disparu, les salles de bain qui existaient parfois ont disparu pour devenir des pièces d'habitat. C'est pour ça qu'il y a des toilettes publiques à l'extérieur maintenant dans la rue. Et le domaine public, ce qu'on peut appeler le domaine public, c'est-à-dire la rue, se trouve encombré de tout un tas de petits abris où on stocke les meubles en trop, le tas de charbon pour l'hiver. Donc les rues, en fait, aujourd'hui on dit que les routongs ont des ruelles qui sont étroites et qui sont incommodes pour la circulation. En fait, elles sont à l'origine, elles étaient plus larges que cela, mais en raison de cette surpopulation forcée par une volonté politique, les gens, bah, ils se sont débrouillés, c'est l'esprit du Pékinois, il faut se débrouiller, il faut survivre. Et il a empiété sur le domaine public pour construire des petits appentis, des petits magasins, des petits garages à vélo, des petits dépôts de charbon. C'est ce que je dessine là. Là, on s'éloigne de mon quartier, on n'est pas très loin. Ce sont les fossés de la cité interdite, tels qu'ils existaient, tels qu'ils étaient visibles en 99. Il y avait de chaque côté des fossés de la cité interdite, des maisons encore traditionnelles, dont celle-ci. On voit là la muraille de la cité interdite. Là, sur celle-ci, on voit mieux. Là, voilà le pavillon, un pavillon assez important qui ressort d'un temple d'à côté, qui est à l'intérieur de la cité. Voilà le mur d'enceinte de la cité, le fossé d'enceinte, et là, ces maisons-là. Alors, ces maisons ont été l'objet de toute une polémique, puisque quand elles ont été démolies, il a été dit qu'on chassait les gens et qu'on démolissait ces maisons parce qu'elles étaient de construction récente. Je l'ai lu dans la presse chinoise pour justifier le déplacement de la population. Je sais que cette année-là, il y avait une exposition ici à Paris sur les trésors du musée de Taipei. Il y avait un plan maquette, un plan relief qui avait été fait en 1840. Qui se trouve au musée de Taipei, qui avait été visible ici à Paris à l'exposition qui avait eu lieu, et on voyait ces maisons sur le plan relief. J'étais très perplexe à l'époque, en 1999, quand j'avais vu cela. J'en avais parlé à certains amis chinois qui m'ont dit « c'est pas possible ». Et là, récemment, j'ai lu dans la presse chinoise qu'il y avait toute une polémique, car on reconnaissait qu'on avait démoli quelque chose qui existait. Étant donné que maintenant, tout ce pourtour de la cité interdite, dont on pouvait faire le tour avec beaucoup de vie, est inaccessible. On ne peut plus se promener, on ne peut plus passer par là. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. C'est vide. Donc ces maisons ont été détruites après 1999. Et tout ce que je vous ai montré avant n'existe plus aujourd'hui. Voilà un temple, parce que Pékin avait une multitude de temples, il n'en reste plus beaucoup. Ça, c'est un des vieux temples de Pékin, le temple de Zhou Huase, qu'on appelle aussi temple de l'intellectualisation. C'est un mot très compliqué. C'est un temple qui avait été bâti par la famille d'un eunuque pour recueillir le corps de cet eunuque et ses parties qui lui avaient été restituées après la mort. Selon la coutume des grands eunuques impériaux, c'était un grand eunuque impérial qui malheureusement, c'est assez curieux, il avait bénéficié comme ça de, il a bénéficié lui d'un grand, très grand temple, très beau temple construit sous l'époque des Ming. C'est un temple qu'il faut visiter quand vous, si vous allez à Pékin. C'est toute une histoire. Ce temple est magnifique, il a des caissons en bois, il a 1000 statuettes de Bouddha dans un des pavillons. C'est quelque chose d'extraordinaire qui ont été saccagés pendant l'occupation japonaise. Les Japonais ont fait pas mal de dégâts dans cet endroit-là. Et ce temple vient d'être restauré, il a été pratiquement reconstruit. Les maisons que vous voyez tout autour étaient plus basses. Le temple ressortait au-dessus des maisons. Je disais avec humour avec les gens quand j'ai dessiné cela en 99, je disais c'est bien, l'esprit est toujours plus haut que les hommes. Aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un m'avait écouté ou un mauvais esprit, maintenant ces maisons n'existent plus, maintenant il y a des tours qui s'élèvent tout autour de ce temple. Voilà, encore une vue de ce temple et puis de ces choses que j'ai dessinées avec amour. C'était l'atelier de réparation d'un réparateur de vélo et de tricycle à vélo. Peut-être pas très beau, peut-être pas très moderne, mais bon, entre nous soit dit, un réparateur de vélo ou une casse de voiture ou un réparateur de voiture, je ne sais pas qu'est-ce qui fait le plus moderne, c'est fonctionnel, c'est la réalité. Voilà une belle entrée de maison qui se trouve derrière le musée des Beaux-Arts à Pékin. Enfin, musée des Beaux-Arts qui est en fait un grand bâtiment de style un peu stalinien, néo-stalinien, mis à la sauce chinoise, tout en carrelage de façade, qui sert en fait à des expositions. Vous y trouverez pas ça n'a rien à voir avec le musée du Louvre. Ce sont des expositions de peintres contemporains actuels. On loue les salles, voilà. Alors ce musée est en cours de rénovation, et dans le cadre de cette rénovation, cette Seurheuyen qui a quatre cours, c'est une maison qui a quatre cours successives, bien qu'il y a un panneau qui dit qu'elle est protégée par le bureau des reliques de la mairie de Pékin, devrait disparaître. Alors, l'entrée est très belle, elle est entourée de chaque côté par des murs écrans. Ici, il y a une pierre pour attacher les chevaux. On voit les sophoras derrière qui ressortent. Et cette porte, en fait, que j'ai dessinée, à l'origine, n'était pas tout à fait comme ça, puisque, en fait, la véritable porte se trouve derrière, où il y a tout ce petit bazar avec les vélos et tout. C'est derrière que se trouve la porte. Ces deux panneaux de briques qui sont là de chaque côté, avec cette partie-là, cette frise, ont été rajoutés pendant la Révolution culturelle par les habitants, de façon à ce que la porte qui est occultée, qui se trouve juste derrière, et qui se trouve avec des sculptures magnifiques, avec des ardoises sculptées de motifs extraordinaires, avec deux pierres de seuil énormes qui sont à peu près hautes de 80 cm, ne soit pas détruite par les cartes rouges. Les habitants avaient masqué la porte par ceci. C'est le décor chinois. Ça, c'est un des derniers vieux ponts de Pékin qui disparaît. Le pont de Gaoliangqiao, qui se trouvait à Sichuan, sur la porte, tout à fait à l'est de Pékin. C'est un pont qui est chargé de nombreuses légendes, de mauvais esprits qui voulaient dessécher Pékin. Et ce pont se trouvait en fait dans l'axe de la porte de Sichuan. Vous savez que Pékin était entouré de grandes murailles, de fortifications. Il y a la muraille qui entourait la cité interdite, la muraille qui entourait la cité impériale autour de la cité interdite, dans laquelle vivaient tous les gens qui travaillaient pour le service de la cité interdite. Il y avait la cité tartare entourée de sa muraille, donc la cité mandchoue, et la cité chinoise au sud, qui était également entourée de ses murailles. Et la plupart des portes d'accès, des portes principales des accès de Pékin, où accédaient toutes les grandes routes qui venaient ou de la steppe, ou du sud, ou de la mer, les portes d'accès de Pékin dans les murailles étaient précédées d'un grand pont. Dans la collection Albert Kahn, vous avez des photos de plusieurs de ces ponts. C'est le dernier pont qui restait à Pékin. Aujourd'hui, il se trouve pris dans les travaux d'un énorme échangeur, et quand je l'ai dessiné, les ouvriers étaient en train de l'abattre. Ça, c'est ce qui fait partie des charmes de Pékin, mais c'est aussi une image ancienne de Pékin, très ancienne, puisqu'elle date du temps des Yuan, du temps des Mongols. Ce sont les Yuan qui ont construit les lacs qui se trouvent dans Pékin. Et ça, c'est le lac de Zhoushetran, c'est ce qui est tout à fait au nord. Et le petit pavillon qui se trouve sur cette colline, qui est une colline artificielle faite avec le remblai de la construction de ce lac, se trouve un petit bâtiment qui a été plus ou moins transformé en temple et qui est l'ingénieur en chef, l'ingénieur qui, sous les ordres du grand Khan, avait construit ces lacs en captant notamment et en détournant une rivière qui se trouvait au nord de Pékin, car Pékin n'est pas réellement traversé par une grande rivière comme pratiquement toutes les capitales du monde. C'est une particularité. Donc les Chinois ont fait venir l'eau à Pékin au lieu de construire une ville sur le bord de l'eau. Ce lac maintenant fait l'objet d'une petite opération immobilière, donc on est en train de construire tout un tas de maisons autour, alors qu'il y avait un beau parc, les gens pêchaient, les gens se baignaient, les gens faisaient du canotage, c'était le rendez-vous des amoureux aussi. Bon, là actuellement, ça, le dessin est vieux, il date d'il y a 5 ans, maintenant il y a des grues partout là. Dans les Hutong, dans les vieux quartiers de Pékin, ce n'est pas que des quartiers résidentiels, loin de là, c'est aussi des quartiers de vie et une vie très active. Là, on se trouve dans un quartier qui est en plein cœur de Pékin, sur les bords de ces lacs, entre Hohai et Tianhai. C'est le numéro 4 de la rue du pont des lingots d'argent, Yedintiao, Seha. Et c'est un petit atelier de meubles et de boîtes chinoises. Vous savez, ces petites boîtes en bois recouvertes de tissu et qui se ferment avec un petit fermoir en os. Voilà ce qu'on y fabrique. Une petite anecdote. Quand j'étais en train de dessiner cela, j'ai mis à peu près 5 heures pour travailler. Les ouvriers sortaient, rentraient, regardaient depuis la fenêtre là-haut. Et puis, le patron n'était pas content. Et puis, quand j'étais sur le point de terminer, vers 6 heures de l'après-midi, c'était en été, le patron, il est quand même venu, il est venu voir, il a trouvé ça extraordinaire, il s'est mis à me parler, il est venu, c'était en été, il m'a offert un morceau de pastèque, il est venu, il s'est mis à parler avec moi, il était émerveillé, il voyait son atelier, et c'est à son tour, lui, qui s'est fait engueuler par sa femme parce qu'il n'allait pas dîner. Voilà, dans tout ce quartier, autour de Hohai et Shoshahai, vous avez de nombreuses maisons avec de nombreuses pierres de seuil, tout aussi variées les unes que les autres. Là, vous avez le symbole bouddhique de la roue qui tourne, de la roue de la vie. Voilà une autre, où l'objet ancien côtoie l'objet usuel. Une autre forme carré, plus récente d'ailleurs, ça c'est l'époque Qing. Là vous voyez très bien ce qui reste du petit animal mythique qui était sculpté dessus. Toujours dans le même quartier, mais dans une autre ruelle qui porte le nom de Yaer Hutong, c'est la rue du Corbeau. C'était la porte intermédiaire dans l'accès d'une deuxième cour d'une Sœur Huyen. Et cette porte était magnifique, je dis bien été. Donc on avait traversé déjà une première porte pour entrer dans cette cour carrée. Et là, on accédait à la deuxième cour. De chaque côté, il y avait des pierres de seuil, plus des tabourets de marbre, oui, où s'asseyaient les serviteurs. Et ce type de porte très particulier, de chaque côté, la charpente descend en gouttelettes avec un panneau en bois sculpté totalement transparent de part et d'autre. Pour les mêmes raisons que celles que j'avais expliquées tout à l'heure, les habitants, pendant la Révolution culturelle, avaient masqué de plâtre et de torchis la beauté de la sculpture en bois qui était là. Et c'était resté tel quel jusqu'en 1998 quand j'ai dessiné cela. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y en avait une autre, petite porte de petit mandarin abîmé, n'existe plus. cette porte a été modernisée aujourd'hui. Elle ne ressemble plus à rien, plus du tout à cela. C'est une porte qui ne ressemble plus du tout. Voilà le pont du lingot d'argent, tel qu'il existe encore aujourd'hui. Yidin Tiao, c'est très vivant, tout le monde passe par là. Au fond, alors d'un côté, il y a le lac de Tianhai, là, il y a Hohai de l'autre côté. Le pont, il est en Dodan, un petit peu comme les ponts du sud. Au fond, on voit le toit, ici, c'est la toiture de la tour de la cloche. Tout ce quartier est aujourd'hui l'objet d'un projet de rénovation et de modernisation. C'était le cœur de Pékin. C'était vraiment le poumon de Pékin. Si vous lisez les romans de Lao She, vous découvrirez beaucoup de scènes qui se passaient là, et de scènes qui existaient encore il n'y a pas longtemps. Moi, il m'est arrivé encore il y a 3 ans, le matin, quand je pars dessiner, tôt le matin, en été, à 6h30, 7h, il y avait des chanteurs ou des chanteuses de l'opéra de Pékin qui s'entraînaient comme ça, à l'air libre, sur les bords du lac, à l'ombre des arbres. Le soir, on voyait d'autres scènes, c'était les retraités, les vieux, ou même certaines personnes qui avaient fini de travailler, qui allaient promener leurs oiseaux sur les bords du lac le soir, qui les lâchaient, qui revenaient dans les cages. Maintenant, on ne voit plus, on a mis des grilles partout autour du lac. Moi, je dis avec humour à mes amis, on a mis le lac en prison. Voilà les maisons traditionnelles, les entrées traditionnelles du Pékin que j'aime. Vous voyez, elles sont toutes différentes. Hein. Oh, je pourrais vous en parler, vous dire beaucoup de choses ici, dans cette partie qui est entre le linteau de la porte et le haut du toit. Vous avez toujours cet espace, et cet espace, soit il est vide, soit il est comblé par une planche de bois, soit il est comblé par un jeu de tuiles posées de façon géométrique qui forme un petit dessin ajouré, soit comblé par des panneaux de briques sculptées ou de marbre. Cette graduation indique en fait le niveau de fortune de son propriétaire du temps où elle avait été construite. En fait, toutes ces portes ne sont que chargées de symbolique. Là, on s'éloigne un petit peu du cœur de Pékin, on est dans le quartier de Matsudien. Matsudien, c'est un quartier où se trouve notamment l'hôtel Sheraton. Et ce quartier-là et ces maisons-là, elles sont très particulières parce qu'elles sont avec des murs très épais et des toits assez élevés. C'était les Tuileries qui ont travaillé pendant toute la dynastie Qing pour refaire et entretenir les toitures de la cité interdite et des temples impériaux. C'était d'immenses fours et d'immenses entrepôts. Je dis bien c'était, puisque malheureusement, là, il y a 6 mois, il n'en reste plus rien. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voyait dans ce petit village, parce qu'en fait c'était en dehors des fortifications de Pékin à l'époque, c'était hors Pékin, il y avait les maisons des ouvriers, des contremaîtres, et les portes étaient parfois recouvertes de tuiles aux couleurs impériales, mais qui en fait, ce n'est pas parce que c'était un temple impérial, loin de là, ni un palais, mais c'était en fait les tuiles qui avaient été refusées pour défaut de qualité, mais qui étaient réemployés pour les logements du personnel, en quelque sorte. Là, on change dans un autre quartier. On est dans le quartier de la mosquée, à Niotie, dans le quartier de la mosquée de Pékin. Ça, c'est un vieux dessin de ce que j'ai fait en 1997. On est dans un quartier qui, malheureusement, j'aurais dû dessiner un peu plus là-bas, à cette parce que maintenant, finalement, il n'y a plus rien. Ce qu'on peut voir, ce qui est assez intéressant, là, il y a un petit trou. En fait, c'était pour l'écoulement des eaux. Les Pékinois, quand même, étaient très astucieux. Les cours sont surélevés par rapport au niveau de la rue, très souvent, les maisons, l'assise des bâtiments est surélevée par rapport à la cour. Et la cour était parfaitement bien nivelée de façon à ce que les eaux de ruissellement des pluies, car quand il pleut à Pékin, il pleut beaucoup, puissent s'évacuer directement dans la rue. c'est un petit retour sur Matsudien, où on voit là un détail de la vie pékinoise telle qu'elle existait encore. Maintenant, on la voit en province ou en banlieue. Ce sont les billards qui sont posés sur le trottoir, et où les gens jouent au billard en extérieur, les jours d'été. Bon, en hiver, on met une bâche, il tombe de la neige dessus, c'est pas grave, on attendra le printemps, le dégel. On retourne dans le quartier de Niozier. Ça, c'était une porte qui avait été, elle aussi, remurée pendant la révolution culturelle. Mais maintenant, c'est plus grave, elle n'existe plus. Alors, je vous ai montré tout à l'heure un beau temple, le temple de Zhohuasi. Là, je vous montre un autre temple. C'est le temple de Hoshamiao. Le temple de Hoshamiao, c'est le temple du dieu du feu. Bon, il y en a eu beaucoup dans Pékin. C'est un dieu très, très populaire. Et ce temple se trouve tout près du lac de Tianhai, sur l'axe de Diamen, de l'avenue de Diamen. Il se trouvait juste à la limite entre la cité tartare et la cité impériale. Et c'est l'entrée de ce temple que j'avais dessiné, vu de l'intérieur. Et il était à l'époque complètement occupé par tout un tas de bâtiments parasites. Il y avait plus de 2000 personnes qui habitaient dans ce temple. C'était tous des réfugiés du tremblement de terre de 1973, à qui avait été confié cet espace-là pour qu'ils puissent y habiter. Et le temple avait été complètement vérolé, en quelque sorte, par tout un tas de constructions. Voilà, vous voyez, on voit le toit du temple qui ressort, et puis toutes ces constructions en briques et en tôles ondulées qui ont tout envahi. Le temple lui-même, à l'intérieur, est divisé en plusieurs pièces, a été cloisonné. C'est un autre temple qui a le même sort, c'est le temple de Guangfuguan sur sur une petite rue qui est connue sous le nom de Yandai Xietie, la rue de la blague à tabac, parce que sous les Qing, il y avait les marchands de pipes et de blagues à tabac et de tabac qui s'étaient réunis dans cette ruelle. Et sur le bord de cette ruelle, il y a ce temple, le temple de Guangfuguan, qui avait été construit par un moine qui avait revendu le riz des offrandes qu'on lui apportait, et avec l'argent de ce négoce, il avait construit ce temple-là. Ce temple, aujourd'hui, est également squatté. L'entrée de notre temple également squatté. On voit à l'entrée. Alors, le temple, ça, c'est la porte principale du temple. Et puis il y a, avant d'y accéder côté rue, il y a une autre enceinte qui a été construite récemment, dans les années 70, en briques et en ciment. Et là, on voit les deux petits gardiens du quartier qui s'installent là et qui contrôlent l'accès des personnes. Seuls, théoriquement, sont autorisés à rentrer là les habitants qui squattent ce temple. Voilà le squat, avec le linge qui sèche, la petite bassine pour se laver posée sur un trépied métallique, et puis au milieu de toutes ces constructions parasitaires, il y a un magnifique bloc de marbre abîmé qui sort d'un de ses os et sur lequel est apposé le balai serpillière. Mais bon, ce sont un petit peu les oubliés de l'histoire, parce que curieusement, l'entrée du temple vient de faire l'objet d'une reconstruction. L'entrée que je vous ai montrée tout à l'heure a été rénovée. Alors, et on a refait la rue. Alors, en fait, on a dégagé une petite construction parasitaire qui se trouvait ici. Et quand j'ai fait ce dessin-là, tout était propre, clean. Et puis là, 15 jours après, les habitants, comme les habitants qui squattent à l'intérieur, n'ont pas été chassés. On n'a fait que refaire et embellir la façade de la porte. Et bien finalement, les gens recommencent à stocker leurs affaires à l'extérieur. Ça, c'est le génie du Pékinois. On se retrouve dans une des cours du temple de Hoshamiao, avec le linge qui sèche, les couettes, ça c'est typique de Pékin, les couettes qui sèchent. Et là, je vous montre une cour intérieure. Je vous ai parlé souvent, on a vu souvent l'extérieur des maisons. Là, c'est une cour intérieure. C'est la cour intérieure d'une maison qui a défrayé la chronique à Pékin. C'est le numéro 22 de la rue se trouvant derrière le musée des Beaux-Arts, Meishuan Houtier, à Shanghai. Son propriétaire, M. Zhao, a intenté des procédures pour empêcher la démolition de sa maison, qui couvrait quand même 25 hectares. C'était un grand palais qui datait du temps des Ming. Et il s'est querellé avec la municipalité de Pékin, avec les différents organismes pendant 2 ans, 2 ans de procédures vaines. C'était paru dans la presse. Il a été à un moment donné le porte-flambeau de l'opposition pékinoise à la destruction de certaines maisons. Et il m'avait autorisé très gentiment à pénétrer à l'intérieur d'une des 2 cours pour la dessiner. Donc vous voyez ce que je vous disais, l'intérieur des cours avec ça respire le calme, avec des arbustes, des roses. Ça, c'était le jour de la démolition. C'était le jour de la démolition. Maintenant, il y a une banque à la place. Et c'est la banque de la construction. On pourrait peut-être passer ici, si c'était possible. Là, on est juste à côté de cette maison, c'était pas un cas isolé, il y avait une autre très très belle maison qui appartenait à... Voilà. Bon, le dessin est un peu grand, on va faire du travelling. Donc vous voyez, j'ai dessiné ça, c'était au mois de mai. La maison... D'après les affiches, devait être démolie le 15 mai. C'était la date échéance. Là, on était le 9 mai et il y avait les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, parce que c'était le 1er mai. Et donc, il y avait un petit air de fête, mais en fait, c'était la démolition annoncée de la maison. Mais vous voyez, le Pékinois, jusqu'au dernier moment, il vit jusqu'au dernier jour. Il laissait son vélo contre le mur, le linge continue à sécher dans la rue, contre son mur, son linge sèche là. C'était une très très belle maison qui appartenait à une dame de cour qui avait pris sa retraite et qui devait être très fortunée. Certains disent qu'elle avait été une des concubines d'un eunuque, parce que les eunuques avaient aussi des concubines, mais elle était très fortunée, sa maison était très belle. Là, on va voir très rapidement un autre croquis, qui est l'ancienne demeure de M. Cao Shuixing, qui n'est autre que l'auteur du rêve du pavillon rouge. C'est un petit peu le Balzac chinois. Mais imaginez qu'on détruise la maison de Balzac. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à Pékin. C'était l'intérieur de la cour. Le pavillon rouge. On va repasser ici. Là, je vais vous passer une série de dessins qui se trouvent à Chinloutier. Chinloutier, c'est la rue de la Voie Sacrée. C'était la Voie Sacrée qu'empruntait l'empereur une fois par an pour aller du temple de Dong Yue Miao au temple du Jetran, le temple du soleil, où avait lieu une fois par an, dans le temple du soleil, des sacrifices impériaux très importants. Le long de cette voie sacrée, il y avait des petits bâtiments. Certains n'étaient sans intérêt, car reconstruits dans les années 70 ou 60. D'autres étaient plus intéressants, car les gardes qui étaient chargés de la sécurité du temple impérial du temps des Qing et des Ming, les casernes, en fait, étaient construites le long de la voie sacrée. Là, aujourd'hui, ils étaient occupés par tout un tas de gens, de Pékinois, évidemment, qui faisaient sécher leur linge et tout, mais comme on voit partout. Mais cette voie sacrée que j'ai dessinée amplement, vous voyez, c'est fini, c'est la fin. pour construire des immeubles comme celui qui est derrière, le Landau, recouvert de carrelage et avec de magnifiques vitres teintées de vert. C'était une rue qui était assez intéressante, assez animée. Là, on voit le personnage qui est là. C'était tout simplement un ancien fonctionnaire qui était à la retraite, qui ne devait pas avoir beaucoup d'argent, mais qui s'était transformé en coiffeur de rue. Voilà. Cette ruelle, vous voyez, qui était plus haute que le niveau de la rue. Et là, on va passer à la fin de Pékin. À la fin, c'est le quartier de Nanshese, ce quartier qui a aussi défrayé la chronique en Chine, puisqu'on se trouve tout à côté de la cité interdite, à 50 mètres de la cité interdite. C'était un quartier qui était très important, historiquement également, puisque c'était en fait, il se trouvait dans la cité impériale, et c'était l'endroit qui était en quelque sorte un petit peu la pourvoirie, comme le quartier de la pourvoirie à Versailles. Là habitaient tous les fonctionnaires et les marchands qui avaient l'exclusivité de l'approvisionnement en riz, en soie, en ciseaux, en métal, de broderie, en aiguille, tous les noms de rues portent ces noms-là, et ils fournissaient la cité interdite. Une pierre de seuil avec le symbole d'une chauve-souris qui tient une pièce de monnaie dans son bec avec un ruban, symbole de fortune, à côté l'abondance. Elle est à moitié enfouie dans le niveau du sol, puisque finalement les gravats successifs font que le niveau du sol enfonce les pièces anciennes. La maison était très ancienne. Voilà une cour intérieure d'une de ces maisons dans ce quartier. Toute cette série de croquis faits à la hâte, je dis bien à la hâte, je les ai rédigés. Je les ai faits, je les ai dessinés en l'espace d'un mois, puisque j'ai commencé à faire cela lorsque j'ai appris que ce quartier allait être démoli. Là, on voit quelque chose qui est significatif de l'époque, d'aujourd'hui. Ce caractère chinois, entouré dans un cercle blanc, signifie cependant chai. Chai, ça veut dire abattre, à démolir. Donc quand la décision est prise, on a les employés de la municipalité ou des agents immobiliers appliquent ce caractère-là sur tous les murs de toutes les maisons qui vont être démolies. Celui-ci avait dû être appliqué par erreur, parce qu'en fait, il avait été peint contre les murs d'un temple qui est très ancien, qui se trouve derrière, c'est le temple de Poutousseu. Et là, il a été démoli en partie, puisque je n'ai pas très bien compris pourquoi la gargouille en grès, en marbre, il y en a certaines en grès, d'autres en marbre ont disparu. Voilà ces ruelles de ce quartier où commençaient déjà, quand j'ai dessiné, à s'accumuler les décombres des gens, les firures des portes d'entrée, les heurtoirs. Je crois que. Oui. On va passer ici de nouveau. Voilà. Si on peut. Voilà, ça en est à. Dans ce même quartier, mais sur l'avenue de Danhuamen, au numéro 62, vous avez toujours le même esprit de ces maisons, avec de belles pierres de seuil, parfois plus importantes que d'autres. Et puis des petits détails de la vie d'aujourd'hui, de la vie quotidienne, de la vie moderne. Là, c'est le siège où s'assoit le responsable de la sécurité de la maison, le petit support où on fiche le drapeau rouge à chaque fois qu'il y a des fêtes importantes. Et ici, le petit appendice de la petite maison, du petit magasin qui vend des petites choses, mais qui prend de l'emprise sur le trottoir. Un détail, des tuiles qui sont très souvent décorées soit de caractères votifs, soit de motifs floraux, de dragons. Voilà. Vous voyez, c'est typique de ces maisons. On voit la succession de cours, les bâtiments avec les toits arrondis qui sont assez extraordinaires parce qu'ils coupent le bruit. Et puis, de temps en temps, on voit sur l'emprise de la rue ces petites constructions parasites. voilà, l'intérieur d'une cour. Alors celle-ci était charmante parce qu'il y avait encore le bois cloisonné ancien, à l'ancienne. On y avait ajouté, évidemment, il y avait des vitres, qui étaient mais contre les vitres, les occupants avaient recollé du papier de riz blanc, car il faut savoir qu'avant, quand il n'y avait pas de vitres, les Pékinois mettaient du papier de riz blanc. Ce papier de riz, ben, il protégeait du soleil, il protégeait du froid aussi très bien, on en mettait plusieurs épaisseurs. Et là, curieusement, ben, il y avait les vitres, mais il y avait encore le papier de riz en plus. Là, il y avait, sur ces deux petites aiguilles, il y avait deux caractères sculptés, Ping An, la paix et la sérénité. Voilà. La vie de Pékin dans ses petites ruelles, le vélo, la petite carriole, tricycle, et la voiture moderne, la Beijing Jeep. Et ces petites aiguilles étaient parfois sculptées là, avec un motif de fleurs entrelacées. C'était très beau. C'était un magasin. On retrouve exactement, j'ai repéré dans la collection Albert Kahn, la photo de ce magasin. Donc par rapport à la photo prise par les photographes d'Albert Kahn, l'unique différence, c'est qu'il n'existe pas cet appendice là, mais on retrouve ceci. Et il a situé sa photo exactement dans Ramen Dadier, et c'est exactement cela. Voilà, une des portes d'une des maisons. Et alors là, il y avait là aussi, c'était les deux caractères, Ping An, qui étaient sculptés. Et là, en plus, il y avait des écritures parallèles qui, au lieu d'être collées sur du papier comme dans une des dessins précédents, l'avaient été gravées par les précédents propriétaires carrément sur le bois. Ce sont des scènes de vue de ce quartier. La cage à oiseaux qu'on accroche à l'arbre devant la maison. Les pierres de meule qui ne servaient pas seulement à moudre du grain aussi, mais qui avaient un symbole, qui pouvait avoir un autre symbole, qui était celui, le grain, c'est la fortune, c'est l'abondance. Donc parfois, on a posé contre le mur de sa maison des pierres de meule pour attirer la fortune. Et voilà ce que l'on voit malheureusement, mais ça je l'ai fait un petit peu à contre-cœur, c'est pas le genre de dessin que j'aime faire. C'est la porte d'une très belle soroyenne qui se trouvait à Dongzhimen. Et c'était un grand mandarin, il y avait les quatre petites aiguilles. C'était au moment de la fête du printemps, il y avait des lanternes qui étaient appliquées, signe de joie. Et le caractère chai qui avait été, mais vraiment en grand, posé, peint sur cette porte et repeint sur le mur écran pour chasser les mauvais esprits au fond. Alors ça, on a fini avec Pékin. Ce que je vais vous montrer très rapidement, c'est des dessins que j'ai faits aussi dans d'autres provinces. Ça, c'est dans la province du Shanxi, à Datong. C'est un temple très connu qui a été reconstruit. Il ne ressemble plus du tout à cela. Ça, c'était à Datong. C'était en 80. Ça a été photographié à l'envers. C'était en 97. C'est la vieille ville de Datong telle que vous ne la verrez plus. Alors, par rapport à Pékin, vous constaterez que les entrées de portes sont complètement différentes. Il y a de grandes avancées, des crans au vent, avec des systèmes de piliers en bois qui reposent sur des socles en pierre pour que l'eau n'abîme pas le bois. L'architecture est complètement différente. Les écritures parallèles sont collés sur les piliers qui sont en avancée. C'était Datong. Là, on est à Hangzhou, qui avait été considéré par Marco Polo comme une des plus belles villes de Chine. J'ai dessiné cela en 99. Petit magasin de Hangzhou avec son propriétaire qui était assis sur un petit siège, qui attendait le chaland, le linge qui séchait. Ces maisons sont toutes en bois, en charpente, ossature bois, charpente en bois, des fenêtres en bois cloisonné, toutes différentes. Il n'y a que les murs de refend qui sont en maçonnerie. Il y avait dans à Hangzhou, il y a beaucoup de puits en marbre magnifiques qui se trouvaient dans les rues avec un petit enclos. Là, celui-ci était très ancien. On voit l'usure faite par le temps avec les cornes. Tout cela n'existe plus. Et là, on est dans une autre région de Chine. C'est le Xinjiang, tout à fait à l'extrême ouest de la Chine. On n'aurait pas l'impression d'être en Chine, là, n'est-ce pas ? Eh bien, là, on est à Kashgar. Hotian. Kashgar. Tout cela est en voie de disparition si ça n'a pas disparu. Merci.
Votre évocation était très émouvante, et je vous en remercie.
Merci bien.
Mais nous ne pouvons pas ne pas éprouver une grande tristesse devant ce qui se passe actuellement à Pékin et qui va s'accentuer avec les Jeux Olympiques. Puisqu'alors, ce ne sont plus seulement les maisons, mais ce sont les rues elles-mêmes qui vont disparaître dans les grandes avenues nord-sud qui sont nécessitées par les Jeux Olympiques. Ce qui m'a frappé dans votre présentation, à une ou deux exceptions près, notamment un agent de police, vu de dos, c'est l'absence des personnages. Et là, alors je voulais vous dire, vous avez eu la gentillesse de citer les romans de Lao She, il y a plus grave que la destruction des maisons. C'est le cœur des Pékinois qui est en cause, leur esprit, leur humour, leur sociabilité. C'est la vieille humanité manchoue de Pékin qui a commencé à disparaître après la fin de l'Empire en 1919-1924. C'est cette vieille humanité qui disparaît complètement dans l'exil forcé des habitants de Pékin. Et ça, on ne le dit pas assez.
Je sais que dans ma dessin que je vous ai présenté, il n'y a pas beaucoup de personnages pékinois. Il y en a beaucoup plus dans mes photos, que je ne vous présente pas, et dans mes souvenirs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous ces gens que j'ai photographiés, qui m'ont fait partager leur style de vie, et qui a un style de vie typiquement pékinois, qu'on ne trouve pas dans les autres villes de Chine, ce style de vie disparaît effectivement avec la démolition des maisons. Je sais où sont partis ces gens, je sais ce que sont devenus ces gens, qui étaient des amis pour certains, car eux aussi, parfois, malheureusement, quand la maison disparaît, eux disparaissent. Et parfois, malheureusement, ils meurent aussi, ils décèdent de chagrin, se suicident. C'est pour ça que, par pudeur, je n'ai pas voulu trop les mentionner.
Je suis allé à Pékin l'été dernier, là. Bien sûr, les visites étaient interdites, les parcs autour, mais il y a tout un quartier de Hutong qu'on a visité. On m'a dit que c'était préservé. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
Mais si on vous l'a dit, c'est très bien.
Oui, oui. Et dans la rue Wanfengjing, une grande avenue commerciale avec des grands bâtiments qui se trouvent à côté de la cité interdite, mais dès que vous passez les immeubles, les magasins, après vous retombez dans des ruelles médiévales.
C'était un Nantcheseu, ce qui n'existe plus.
Comment ?
C'était le quartier de Nantcheseu qui aujourd'hui est rasé. C'était un quartier préservé. C'était un des 25 quartiers préservés de Pékin qui n'existe plus. C'est vrai.
Vous posez une question sur le futur opéra de Pékin. Un architecte français, qu'est-ce que vous en pensez pour l'architecture ? Ça ne me paraît pas du tout collé avec le quartier.
Ça m'est très difficile de répondre à cette question.
Vous arrive-t-il de fredonner la fameuse chanson de Francis Lemarque, Mon copain de Pékin ?
Oh, c'est mon amour, c'est pas mon copain. Je dirais, j'ai deux amours. C'est une autre chanson que je fredonnerai.
Excusez-moi, je me permets d'intervenir auprès de mon voisin. De telles beautés n'auraient-elles pas pu être préservées en tant que patrimoine de l'humanité ? Moi, je vous sens très triste parce que vous avez vécu effectivement dans ce cadre-là, auprès des êtres que vous avez quelque sorte côtoyé, et bon, on a plein de sympathie avec vous. Mais alors, que font ceux qui décernent effectivement ces titres? Nous nous sentons frustrés, nous.
Eh bien, écoutez, il existe dans Pékin la cité interdite et son périmètre qui sont classés par l'UNESCO. Il existe en Chine la ville de Pingyang qui est classée par l'UNESCO. Mais il semblerait que même l'UNESCO ne soit pas forcément... je ne sais pas. Là, vous m'obligez peut-être à prendre, à dire des propos qui seraient, qui peuvent se retourner contre moi parce que j'habite la Chine. Mais, excusez-moi, mais je vous remercie de votre réflexion.
Je voudrais simplement savoir si vous avez publié déjà certains de ces dessins et si vous comptez en faire un album ou un... Voilà, bon. Ça mériterait bon. Si c'est déjà fait.
Alors, il y a un petit album qui a été imprimé, qui a été fait à Pékin. J'en suis très fier de le dire parce qu'il est quand même relativement de très bonne qualité. Il y a mieux, mais il a été fait avec le mécénat de Rand Poulenc, Agro-Chine. Il y a quelques exemplaires, il en reste quelques exemplaires qui peuvent être en vente, qui sont en vente à Paris, à la librairie Le Phénix, je crois. Mais là, j'ai en préparation pour 2003 deux ouvrages et pour 2004 un troisième ouvrage qui seront édités aux éditions du Rouergue. Et là, il va y avoir un ouvrage assez volumineux qui ne traitera que de Pékin. Et puis un deuxième ouvrage sur toutes les contrées chinoises que j'ai parcourues. Et le troisième ouvrage aura pour thème la cité interdite. Et je profite de l'occasion pour dire que je suis obligé quand même de remercier certains amis pékinois qui m'ont permis d'avoir une autorisation exceptionnelle que je n'ai pas réclamée. Donc c'est sur proposition, sur invitation de certains amis pékinois que j'ai l'autorisation numéro 001. Je suis le premier artiste étranger autorisé à peindre, à travailler dans la cité interdite, y compris dans les zones exclues aux visiteurs, aux touristes. Et ça pendant un an, c'est assez exceptionnel. Vous voyez, la Chine, c'est un pays de contraste.
Excusez-moi, vous avez dit que les gardes rouges voulaient enlever les animaux. Pourquoi juste les animaux, pas le reste?
Défigurer, c'est une façon de défigurer ces pierres, et comme je vous ai expliqué, ces pierres, c'est un bloc énorme qui est en extérieur, qui est sous la porte et qui passe par derrière la porte. C'était très difficile de tout briser. Bon, certaines sont fondues, il faut bien voir, ce sont des blocs de marbre pour certains, des blocs en grès pour d'autres, qui sont d'une solidité à toute épreuve. Ce sont des pierres qui ont résisté pendant 400 ans. Ce n'est pas le coup de masse d'un jeune garde rouge qui peut la briser comme ça en 5 minutes. Donc c'était la partie la plus saillante, donc la plus fragile, qui était cassée.
Charles Chauderlot, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.